بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche 27 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 15 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble ces 6 passages de la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam, ces 6 événements qui ont été choisis minutieusement par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de l'islam. Et donc, on s'est rendu au 5e passage de cette risala, dans lequel l'auteur, rahimahullah, a choisi un point qui concerne un événement historique, un événement capital dans l'histoire de notre communauté et dans l'histoire de notre religion, la religion de l'islam. Et d'ailleurs, sachez que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes et messagers sans exception, à commencer par notre père Adam et en passant par Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sallallahu ala kulli al-anbiya et wal-mursaleen. Leur religion à tous, c'est l'islam, qui signifie la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet événement, c'est bien évidemment l'immigration. Comme vous savez, notre prophète alayhi salatu wa sallam a passé 13 ans à Mecca. Il a reçu la révélation pour la première fois à l'âge de 40 ans. Et avant de recevoir la révélation, il était connu parmi les siens comme l'homme de confiance, le véridique digne de confiance. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir la révélation, il n'est jamais tombé dans les péchés. Il n'a jamais commis les péchés qui étaient pourtant très répandus dans sa société. Il n'a jamais bu l'alcool, il n'a jamais forniqué, il n'a jamais adoré une statue ou une idole. Au contraire, il s'isolait dans la grotte de la montagne de Hira où il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait Allah seul. Et il y avait quelques Arabes encore dans la péninsule arabique qui étaient sur le pur monothéisme. Vous savez que les Arabes tous dans cette péninsule arabique était sur le monothéisme pur, sur la religion de Ibrahim, jusqu'à ce qu'un homme qui était très respecté, très connu par ses actions de charité et de bonté, et c'est en général les gens comme ça qui peuvent égarer les autres, ceux qui sont respectés et aimés quand ils ne sont pas sur la vérité. Cet homme, il s'appelle Amr ibn al-Hayy al-Khuzai, le premier qui a changé la religion des Arabes. Alors qu'avant, ils étaient tous sur la religion de Ibrahim. C'est pour ça qu'ils faisaient le pèlerinage. Et ils faisaient des offrandes et des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils faisaient d'autres adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les restes de la religion de Ibrahim qu'ils avaient encore. Cet homme a vu des idoles et des statues lors de son voyage en Syrie, la terre de la plupart des prophètes et des messagers, et ça lui a plu. Et c'est lui qui a ramené la première idole qui a été introduite dans la péninsule arabique. Cette idole, elle s'appelle Hubal. C'est la plus grande et la plus vénérée chez les Arabes à l'époque. Donc, jusqu'à l'âge de 40 ans, où notre prophète, alayhi sallam, a reçu le premier message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Après cela, il est resté pendant 13 ans à Mecca. Donc à l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation. Durant 13 ans, il est resté à Mecca à les appeler, à adorer Allah seul, sans rien lui associer, et à délaisser l'adoration de ses idoles et de ses statues, et de tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ce qui est intéressant parmi les points qu'on a déjà vus, dans un événement qui a été choisi par l'auteur, c'est que Kuffar Quraysh, ils ne s'opposaient pas à l'adoration d'Allah. Ça, c'est très important de le comprendre. Ils ne s'opposaient pas à l'adoration d'Allah. Ils acceptaient l'adoration d'Allah. Ils n'avaient aucun problème avec ce point. Là, le vrai problème qu'ils avaient, c'est avec l'adoration d'Allah seul et de délaisser toutes ses idoles. C'est ça qui leur posait problème. Donc, le prophète a passé ses 13 ans à appeler uniquement à l'unicité d'Allah. Ça nous indique l'importance de l'unicité d'Allah. Et c'est une science dont on a besoin tout le temps, jusqu'à quitter ce bas monde. Tu n'arriveras jamais un jour à un niveau de science où tu peux te passer de l'étude de l'unicité d'Allah. Car tout simplement, c'est une science infinie, inépuisable. C'est la science qui te permet de connaître Allah. Même si tu passes toute ta vie dans cette science, tu n'arriveras pas au bout de cette science. Tu en auras toujours besoin. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, durant ses 13 ans, il a appelé uniquement et strictement à l'unicité d'Allah. Et durant les 10 ans qui ont suivi après l'émigration à Médine, il a appelé à l'unicité d'Allah, il a appelé aux autres législations de l'islam. Et la dernière chose à laquelle il a appelé, c'est l'unicité d'Allah. Il a dit لعنه على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يعني il a mis en garde contre la pratique des communautés d'avant qui ont fait des tombes de leurs prophètes et de leurs pieux des lieux d'adoration. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Si vous visitez une église ou une synagogue, en général, vous trouvez des tombeaux dans ces lieux de culte. Et ça, c'est interdit. Et malheureusement, vous trouvez ce phénomène même dans la plupart des pays de l'islam aujourd'hui. Au point où c'est devenu rare d'aller dans une mosquée, dans beaucoup de pays de l'islam, sans y trouver des tombeaux. Et ça, c'est quelque chose qui est strictement interdit en islam. C'est la dernière chose contre laquelle le prophète alayhi sallam m'a mis en garde. Donc, pendant ces 13 premières années, avant l'émigration, le prophète alayhi sallam a subi, parmi les persécutions, lui ainsi que ses compagnons, yani des choses qu'on peut détailler en énormément de cours. Ils étaient persécutés, torturés. Vous connaissez tous l'histoire de Bilal, radiyallahu anhu, cet esclave éthiopien qui était le symbole de la patience et de l'endurance. Il a atteint des degrés extrêmement élevés. Il était torturé par ses maîtres, qui étaient des païens. Et lui, il a cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il le mettait dans le désert, sur le sable brûlant qui arrachait sa peau. Radiyallahu anhu wa arda. Et il mettait sur lui des pierres extrêmement lourdes. Il lui disait de m'écroire. Et il ne faisait que répéter « Ahad, Ahad, il est unique, unique. » Il n'a jamais abandonné sa religion. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis au meilleur homme de cette communauté, après notre prophète, Abu Bakr, de le racheter et de le libérer. Et suite à cela, le prophète a dit « Le meilleur d'entre nous a libéré et a affranchi le meilleur d'entre nous concernant Bilal, Abu Bakr et Bilal radiyallahu anhuma. » Bilal radiyallahu anhu, qui a un parcours remarquable et exceptionnel dans cette religion de l'islam. C'est le premier qui a fait l'adhan. Et après la mort du prophète alayhi sallam, il n'arrivait plus à faire l'adhan. Radiyallahu anhu wa arda. En tout cas, ils étaient persécutés durant ces 13 années. Allah subhanahu wa ta'ala a permis une première émigration vers l'Éthiopie, où il y avait un roi juste, un roi chrétien qui était juste. Il s'appelle Abraha al-Habashi, ou Asmaha, afon, Asmaha al-Habashi, al-Habashi. C'était un roi juste qui était sur la religion chrétienne. Et cet homme a interrogé les compagnons qui ont émigré vers lui. C'est le prophète qui a dit aux compagnons d'aller vers cet homme, car il interdisait l'oppression et l'injustice. Et c'est ce qui s'est passé. Il a accueilli les compagnons, il a écouté, il a entendu d'eux à quoi le prophète a appelé. Il a su que c'était la religion de vérité. Il a cru en Allah, mais il n'a pas osé montrer sa religion, car ses patriarches ont refusé l'islam. Il leur a proposé l'islam, mais ils l'ont refusé. Et le prophète a fait sur lui la salade sur le mort, après son décès. Et les compagnons ont fait une deuxième émigration vers l'Éthiopie, une deuxième, vers l'Abyssinie, le pays de ce roi juste. Et suite à cela, après toutes les tortures et toute la patience et l'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala a permis la grande émigration, qui a été une phase décisive dans cette religion. Une distinction, une séparation entre le vrai et le faux, entre le mal et le bien, entre les ténèbres de l'obscurité et de l'ignorance et de l'associationnisme et du païanisme, et la nouvelle ère des lumières, les vraies lumières, les lumières de la foi et du monothéisme et l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de cet événement que nous allons parler dans ce cinquième passage qui a été choisi par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il a dit à son sujet. Donc, bien évidemment, on cite des passages et des événements de la biographie du prophète Hassan pour tirer les leçons et les enseignements. Il a dit l'histoire de l'immigration. وفيها من الفوائد من والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. Et il dit que dans le récit de cette émigration se trouvent des éléments, beaucoup d'éléments instructifs à méditer, que beaucoup de ceux qui lisent cette histoire ignorent. Donc ils se contentent de lire l'histoire comme si c'était un conte qui est raconté. Et ça, malheureusement, cette erreur est constatée chez beaucoup de musulmans, même vis-à-vis de la parole d'Allah, le Coran. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour le lire. Il a été révélé avant tout pour le méditer et le comprendre afin de le mettre en pratique. Le Coran, c'est des lois et des règles et des jugements que tu dois appliquer dans ta vie de tous les jours. Et c'est des leçons à tirer. Même dans les récits, les histoires qui sont racontées dans le Coran, c'est pour tirer les leçons. Comme a dit Hassan al-Basri, « Unzil al-Qur'an li'u'mala bihi, fattakhadha aqwamun tilawatahu amala » Le Coran, il dit, il a été révélé pour qu'il soit mis en pratique. Et des gens ont fait de sa simple récitation une adoration. Ou une mise en pratique. Ils ne connaissent de la mise en pratique du Coran que sa lecture, qui est une bonne chose de le lire, surtout dans ce mois à venir, le mois béni de Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été révélé en une seule fois, dans le ciel du bas monde. Et ensuite, il a été révélé à notre prophète, au fur et à mesure, selon les circonstances, sur 23 ans. Est-ce que c'est l'heure de l'adhan?
Mazal.
Il dit, « Walakinna muradana al-an » Il dit, bien évidemment, vous savez que l'imam Ibn al-Qayyim, il a fait un livre très précieux qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Et dans ce livre, il a réservé un chapitre dans lequel il parle des leçons à tirer et des enseignements à tirer de l'émigration du prophète alayhi salatu wasalam. Que ce soit de la phase qui a précédé l'émigration et la phase qui a suivi directement l'émigration. Car ça, c'est très important aussi. Le prophète alayhi salatu wasalam a construit un état. Et par quoi il a commencé ? Donc ça, c'est des choses importantes pour nous aussi, pour un homme qui a une famille, pour quelqu'un qui a une responsabilité. Il y a un exemple à suivre en la personne du prophète alayhi salam dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc il dit, mais ce qu'il veut ici, c'est souligner un seul point, une seule leçon à tirer de cette émigration bénie du prophète alayhi salam ainsi que de ses nobles compagnons. C'est la suivante. Wahiya. أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين ولكن محبة للأهل والمال والوطن. Il dit, il y a quelques-uns, une petite minorité parmi les compagnons qui n'ont pas émigré. Quand Allah a ordonné l'émigration, ils n'ont pas émigré. Non pas parce qu'ils sont pas, ils n'étaient pas capables. Ceux-là sont excusés. Ceux-là sont excusés. Donc il dit, rahimahullah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'émigration, il y a une toute petite minorité parmi les compagnons, qu'Allah les agrée tous, qui n'ont pas émigré. Et non pas parce qu'ils avaient des excuses valables, ils étaient incapables. Non. Cette petite minorité n'ont pas émigré. Il dit d'abord, et non pas parce qu'ils doutaient de leur religion ou qu'ils n'avaient pas une foi assez forte en la véracité de l'islam et que c'est la religion de vérité. Non. Et non pas parce qu'ils ont aimé la religion des mécréants. Non. Qu'est-ce qui les a empêchés d'émigrer ? C'est tout simplement leur amour pour leur bien et leur famille et leur patrie. ولكن محبة للأهل والمال والوطن. Seulement. C'est la seule chose qui les a empêchés d'émigrer. Alors qu'ils aimaient la religion. Énormément. Lakin, ils ont faibli par rapport à ces points. Ensuite il dit, فلما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم وكانوا كارهون. Et quand le prophète, après l'émigration, vous savez que la première bataille qui s'est déroulée entre les croyants et les mécréants de Quraysh, c'est la bataille de Badr. La bataille de Badr, la grande bataille de Badr. Donc, alors que les compagnons, ils ne sont pas sortis pour combattre les mécréants. Ils sont sortis seulement pour intercepter une caravane commerciale qui venait de la Syrie. Car ils leur ont pris leurs biens. Et le prophète leur a ordonné de sortir pour intercepter cette caravane commerciale. Ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas préparés du tout au combat. Leur nombre était de 300 et quelques. 314. Et Kuffar Quraysh, quand ils ont su que les croyants sont sortis pour intercepter cette caravane commerciale, ils sont sortis de Mecca. Et ils sont sortis, leur nombre était plus de 1000. Et ils étaient extrêmement bien armés. Ils étaient préparés pour la guerre. Et ils se sont rencontrés. Et c'est là la grande bataille de Badr, où les croyants ont combattu avec ce qu'ils avaient entre les mains. La plupart d'entre eux n'avaient même pas de chevaux, ils n'avaient pas de chevaux. Et beaucoup d'entre eux aussi n'avaient même pas d'épée. Certains avaient des bouts de bois. Et cette bataille s'est déroulée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son armée avec des anges. Les meilleurs des anges sont descendus ce jour-là et ils ont combattu aux côtés des croyants. Donc, les croyants ont rencontré les mécréants dans cette bataille. Lakin, ce que Cheikh veut qu'on sache, c'est que avec l'armée de Quraysh, il y avait des croyants qui étaient forcés de sortir pour combattre avec Quraysh. Ils les ont forcés. Donc, ils sont excusés. Ils les ont forcés, ils n'avaient pas le choix. Donc, par rapport au point qu'ils étaient forcés, yani on sait que la contrainte est une excuse dans notre religion. Allah Azza wa Jalla dit, la ikraha fi din. Il dit, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Vous savez que ce verset a été révélé au sujet de Ammar ibn Yasir, qu'Allah l'agrée, le très très grand compagnon, parmi les plus proches du prophète alayhi salam. Vous savez qu'il était torturé, lui et toute sa famille, son père, sa mère c'est la première femme qui a été tuée par le kuffar, la première femme croyante qui a été tuée, la première femme martyre. Elle a été tuée par l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, avec une lance qu'il a plantée dans ses parties intimes. Après de très très longues séances de torture pour elle et pour le père de Ammar qui s'appelle Yasser, qui a été tué également. Et Ammar, ils l'ont tellement torturé jusqu'à un point où ils lui ont demandé d'insulter le prophète pour le libérer. Et il l'a fait. Et il est venu en larmes auprès du prophète. Il lui a dit, quand tu m'as insulté, comment tu trouvais ton cœur apaisé avec la foi ou non? Il a dit, apaisé avec la foi. Il l'a fait sous l'effet de la contrainte. Il lui a dit, s'ils reviennent, ils te forcent à faire la même chose, fais-le. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc, celui qui prononce une parole de mécréance sous l'effet de la contrainte et la menace réelle, il est excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que le cœur reste apaisé avec la foi. Et donc, ils étaient forcés de sortir avec les kuffars et de combattre. Et après le combat, les croyants ont réalisé qu'ils ont tué certains parmi ces croyants qui n'ont pas émigré. Et c'est ça le point qu'il veut souligner ici. Les croyants ont réalisé qu'ils ont tué certains parmi leurs frères qui sont restés à Mecca et qui ont combattu aux côtés des mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? فلما خرجوا الى بدر خرجوا معهم وهم كارهون فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفهم. Ils ont lancé des flèches et ils les ont tués sans les identifier dans un premier temps. Et quand ils ont entendu les noms de ceux qui ont été tués, ça a été très pénible pour les croyants. Ils ont dit, on a tué certains de nos frères. Suite à cela, ils ont dit, on a tué certains de nos frères. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire, ce sont leurs frères. Ce sont des croyants. Et ça indique que l'émigration est une obligation religieuse, mais celui qui la délaisse ne sort pas de l'islam. Il a délaissé une obligation religieuse. C'est pour ça qu'ils ont dit, on a tué nos frères. Ce sont leurs frères. Et le prophète sallam ne les a pas blâmés. Il leur a pas dit, non, ce ne sont pas vos frères. Ils n'ont pas immigré. Ils sont restés à Mecca avec les koufars. Car Mecca, à cette époque, était une terre de mécréance. Balad kufr. Lakin, le prophète sallam ne les a pas blâmés. Ça veut dire ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans lequel il leur a fait ses reproches. Allah Azza wa Jalla dit « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. » Illa, une seule exception, illa al mustad'afina min al rijali wal nisa'i wal wildan. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ou dans ces versets, il dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. » Et c'est quoi le tort qu'ils ont fait à eux-mêmes? Ils n'ont pas immigré. Ils sont restés dans le pays de mécréance, avec les mécréants. Et ils n'ont pas immigré avec le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam et les autres compagnons. C'est ça le tort qu'ils ont fait à eux-mêmes. Allah dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant quand la mort leur arrivera. Les anges prendront leurs âmes en leur disant « Où étiez-vous? Pourquoi vous n'avez pas immigré? Pourquoi vous êtes resté dans la terre de mécréance? Où en étiez-vous » C'est-à-dire à propos de votre religion. Ils diront « Nous étions impuissants. Nous étions impuissants sur terre. » Donc c'est ça l'excuse qu'ils vont sortir aux anges quand ils viendront prendre leurs âmes. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! À l'exception des impuissants, hommes et femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. » À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala est clément et pardonneur. Donc celui qui médite cette histoire, il voit que les compagnons ont dit « Nous avons tué nos frères. » Et il saura que le délaissement de cette obligation ne les fait pas sortir de l'islam. Ça reste des croyants. Ça reste des musulmans. Et que ses compagnons aimaient leur religion et détestaient la mécréance. Lakin, ce qui les a empêchés d'émigrer, c'est leur amour de leur famille et de leurs biens et de leur patrie. Donc, ça c'est par rapport à ce verset. Avant de nous arrêter, l'hijra, dans son sens spécifique, ça désigne le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam. Lakin l'hijra, mes frères, sachez qu'elle a un sens beaucoup plus large. L'hijra, son origine et son fondement, il est dans le cœur. Comme le Nabi alayhi salam a dit, le meilleur des émigrants, c'est celui qui boycotte ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Donc ça, c'est l'origine de l'hijra même, avec le corps. C'est l'origine de l'hijra avec le corps, c'est de détester tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et celui qui a fait cela, l'autre émigration lui sera facilitée. Également, il y a énormément de leçons à tirer de cette émigration que nous allons voir, inshallah ta'ala, dans notre prochaine rencontre. Après ce mois béni de Ramadan, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous des œuvres pieuses et acceptables et de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter le bien durant toute notre vie, jusqu'à le rencontrer et en particulier durant ce mois béni de Ramadan. Une période en or, quand Allah subhanahu wa ta'ala te permet de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan, c'est une ni'ma immense qu'il t'a accordée. Vous savez qu'un homme parmi les compagnons a combattu dans le sentier d'Allah et est tombé martyr dans une bataille. Et tous on connaît le degré de cet effort dans le sentier d'Allah. Lakin, un autre des compagnons qui faisait à peu près la même chose que lui et il n'a pas combattu. Lakin, il est resté en vie une année de plus. Et les deux ont été vus en rêve par un autre compagnon. Il a vu que celui qui n'a pas combattu et qui n'a pas eu le martyr, il est mort sur son lit et qui a vécu une année de plus, il a vu qu'il a atteint des degrés beaucoup plus élevés dans le paradis. Il s'est étonné. Il s'est étonné de cela. Il a demandé au prophète, il lui a dit, n'est-ce pas qu'il a vécu une année de plus? Il a dit, na'am. Il lui a dit, n'est-ce pas qu'il a jeûné un mois de Ramadan? Il a dit, na'am. Il lui a dit, n'est-ce pas qu'il a fait 5 salawats obligatoires tous les jours? Il a dit, na'am. Il lui a dit, de quoi tu t'étonnes alors? Il faut savoir, mes frères, que les obligations sont les meilleures des adorations dans l'islam. C'est pour ça, durant ce mois béni de Ramadan, la plus grande obligation qui est spécifique à Ramadan, c'est le jeûne. Mais aussi les 5 salawats obligatoires et les accomplir à la mosquée. Il faut savoir qu'accomplir les 5 salawats à la mosquée, c'est meilleur pour toi que de louper une seule, accomplir les 5 à la mosquée. Et ne pas faire tarawih. Il faut savoir que c'est meilleur que quelqu'un qui a loupé une seule salawat, une seule salat obligatoire en groupe et qui a fait tarawih en entier. Car tarawih est une sunna et non pas une obligation. Ça, ce n'est pas une invitation à délaisser tarawih. C'est une adoration bénéfique et profitable pour les croyants. Lakin, commençons par les obligations. S'il y a le choix entre les deux, on fait toujours passer l'obligation. Salat obligatoire. Aussi le Coran. Comme vous savez, c'est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le Coran et sa lecture et sa méditation a une particularité durant ce mois. Et le Nabi alayhi salam, il étudiait le Coran avec Jibril alayhi salam durant le mois de Ramadan une fois. Et la dernière année, il l'a étudié avec lui deux fois. Donc le Coran, Qiyam al-Layl, aussi les aumônes, sadaqat, surtout donner à manger à ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est parmi les meilleures actions que tu puisses faire durant ce mois de Ramadan. Le Nabi alayhi salam était l'homme le plus généreux. Il a donné un homme 100 chameaux, 100 millions d'euros. Il était l'homme le plus généreux. Il était encore le plus généreux durant le mois de Ramadan, alayhi salatu wassalam. Aussi l'invocation, ad-du'a, et surtout dans les 10 dernières nuits de Ramadan, les nuits où on espère qu'une d'entre elles soit Laylat al-Qadr. Et sachez qu'il n'y a pas moyen d'avoir le mérite de Laylat al-Qadr qu'en suivant la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il ne veillait pas la nuit du 27. Il ne veillait pas la nuit du 23. Il veillait les 10 dernières nuits en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, tu auras la certitude de tirer profit de cette nuit dans une adoration durant cette nuit est meilleure que de l'avoir fait durant plus de 1000 mois, plus de 83 ans. Yani, c'est immense. C'est des choses qui n'ont été légiférées que pour cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tirons un maximum de profit. Et aussi, yani, le jeûne, comme vous savez, ce n'est pas seulement l'abstinence de la nourriture et de la boisson et des relations intimes avec nos épouses. Le jeûne, avant tout, c'est de délaisser ce que Allah t'a toujours interdit. Al-ma'asi, wa-dhunub. Et la meilleure chose avec laquelle on commence le mois de Ramadan, avec un repentir sincère de tous nos péchés. Et avec une intention ferme et une volonté forte de rester sur le droit chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous le facilite à tous. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.